Bonjour, vous êtes sur Voix d'Exil, le média destiné à l'expression libre des personnes migrantes. Je suis Brian Fiorello, stagiaire à Voix d'Exil. Nous sommes le mardi 8 mars 2022, c'est le 13e jour de l'invasion de l'Ukraine par l'armée russe. Voix d'Exil a souhaité aborder ce sujet d'actualité brûlant et en même temps délicat, car c'est le sujet dont tous les médias parlent aujourd'hui. Je suis en compagnie de Omar Odermatt, responsable de la rédaction qui va mener une interview de l'invité de la rédaction tout à l'heure. Bonjour Omar.
Bonjour Brian.
Nous allons parler aujourd'hui de ce sujet brûlant qu'est l'invasion russe de l'Ukraine.
Effectivement Brian, la pandémie de Covid-19, cet hyper événement qui a mobilisé les médias durant près de 2 ans, laisse aujourd'hui la place à ce qui ressemble à un nouvel événement qui va restructurer le monde et également un hyper événement médiatique. L'invasion généralisée de l'Ukraine par l'armée russe qui est en cours depuis le 24 février de cette année. Parler aujourd'hui de la guerre en Ukraine, c'est un peu comme parler de l'histoire qui est en train de s'écrire sous nos yeux. La guerre qu'on croyait être un fléau révolu, un vestige du XXe siècle, du moins en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale, toque à nouveau à notre porte. Et le risque, c'est qu'elle contamine aujourd'hui les pays européens, et ce risque est bien réel, car personne ne connaît les projets de M. Poutine. Qui aurait pu s'imaginer, il y a quelques semaines, se réveiller un beau matin et voir le fil d'actualité de son téléphone que la plus grande centrale nucléaire d'Europe, qui se trouve en Ukraine, la centrale de Zaporizhzhia, a été bombardée par l'armée russe. On a l'impression de vivre un monde dystopique, aussi instable et explosif que de la nitroglycérine. Mais essayons quand même de rester optimistes.
Un monde anxiogène, tout à fait Omar. Et qui as-tu invité pour aborder ce sujet qu'est la guerre en Ukraine ?
J'ai invité Valérie Martyniuk, un ancien rédacteur de Voix d'Exil qui est d'origine ukrainienne. Vous l'avez sans doute déjà entendu par le passé car il a animé plusieurs podcasts de Voix d'Exil. Bonjour Valérie.
Bonjour Omar.
Valérie, tu es en Suisse depuis 8 ans avec ta famille. Est-ce que tu as de la famille qui est restée au pays et comment va-t-elle Valérie ?
Oui, ma maman est toujours en Ukraine. Elle me dit qu'elle va bien, mais je sais que elle dit ça seulement pour que je sois tranquille.
Et arrives-tu à rester en contact avec tes proches, Valérie?
Oui, l'internet, le téléphone fonctionne toujours. Donc, je suis en contact régulièrement avec mes proches en Ukraine.
Étant ukrainien, Valérie, tu connais donc bien mieux l'histoire ukrainienne que moi. Est-ce que tu pourrais commencer peut-être par mettre un peu en perspective cette invasion de l'Ukraine par l'armée russe qui a débuté le 24 janvier dernier ?
Je suis sûr que l'armée russe perdra. Parce que la résistance ukrainienne, pas seulement la résistance de l'armée ukrainienne, mais aussi du peuple entier, est énorme. Et les Russes n'auront aucune chance de vaincre dans cette guerre.
Mais cette invasion russe fait suite quand même à une succession d'événements qui ont eu lieu par le passé. Je pense à la Crimée ou Donbass. Est-ce que tu pourrais juste revenir sur ces événements et nous raconter ce que ces événements ont comme place dans ta vie en fait ?
Oui, en 2014, l'armée russe déguisée dans un petit homme vert ont attaqué la Crimée. Et voilà, ils ont organisé un faux référendum en Crimée. Et ensuite, la Crimée a été annexée.
Donc ces événements ont commencé en 2014,
oui.
Quelques pans du territoire ukrainien donc, ont été envahis par l'armée russe.
Oui. Et
quelle a été la réaction de l'Europe à ce moment-là ? Est-ce que tu t'en rappelles ?
Je me rappelle que la réaction était... Bon, l'Europe et le monde occidental a condamné cette annexion, cette agression. Plusieurs sanctions... ont été adoptés, mais je pense que la réaction et les sanctions n'étaient pas assez lourdes, voilà, pour la Russie.
Ukrainiens, ukrainiennes, russes entretiennent beaucoup de liens. Hein. Nombre de Russes et d'Ukrainiens ont de la famille de part et d'autre de la frontière. Est-ce qu'on pourrait qualifier cette guerre en quelque sorte de fratricide ?
Oui, en quelque sorte. C'est vrai que beaucoup de d'Ukrainiens et beaucoup de Russes ont les proches en Ukraine et en Russie. Mais maintenant, les Ukrainiens ne veulent plus être appelés les frères parce que c'est comme se moquer. C'est comme se moquer. Si un Russe dit que ah, c'est notre peuple, ce sont nos frères ukrainiens, c'est du cynisme. Et on pense qu'ils se moquent de nous, voilà, quand ils disent ça.
Est-ce que tu observes une montée d'une haine anti-russe ?
Ah oui, absolument. Maintenant, les Ukrainiens sont très en colère à l'envers des Russes. Et je trouve ça légitime que si on regarde ce qu'ils subissent, ce que les Ukrainiens subissent maintenant, ils ont raison d'être en colère.
Très bien, mais cette décision, cette stratégie, c'est l'œuvre d'un homme qui est Vladimir Poutine, actuel président de la Fédération de Russie. Est-ce qu'il n'y a pas une dissociation entre les décisions d'un homme et les décisions ou l'attitude d'un peuple ?
Mais jusqu'à présent, oui, on peut dire que c'est seulement Poutine, c'est sa faute et c'est tout. Mais jusqu'à présent, la popularité de Poutine était toujours assez haute. Donc, on peut constater que si on regarde le sondage en Russie, on peut constater que Poutine est soutenu par la majorité des Russes. Voilà. Donc, s'il est soutenu par la majorité des Russes, on peut dire que la majorité des Russes soutient ce qu'il fait.
On l'a évoqué tout à l'heure en début d'interview, mais le rapport de force entre l'armée ukrainienne et russe, entre les deux armées, est clairement asymétrique. Hein. Mais le cours de l'opération militaire que mène aujourd'hui la Russie en Ukraine ne se passerait a priori pas exactement comme l'a prévu Vladimir Poutine. L'armée russe se heurte à une résistance acharnée de la population civile ukrainienne qui rejette massivement l'envahisseur. De même, de nombreux Russes descendent dans la rue au risque, je cite, de gâcher leur vie, hein, comme le dit Lisa, une étudiante russe de 20 ans, tellement la répression de l'État russe est féroce hein, envers la population qui se soulève en Russie, en tout cas du moins qui manifeste. Tu l'as dit hein, tout à l'heure, hein, tu penses que la Russie va se casser les dents, enfin l'armée russe va se casser les dents en Ukraine. Mais comment est-ce que tu expliques cette résistance acharnée de la population ukrainienne ? Parce que c'est quand même assez frappant, ce n'est pas seulement l'armée ukrainienne hein, qui se bat, mais c'est carrément toute la population ukrainienne qui semble se soulever contre l'envahisseur. Comment est-ce que tu expliques ce phénomène ?
Il s'agit de l'existence des Ukrainiens comme la nation. Si les Ukrainiens arrêtent de résister, la nation ukrainienne, le peuple ukrainien, leur identité sera effacée. Et les Ukrainiens, je suis sûr que les Ukrainiens s'en rendent compte.
Comme l'a dit hein, Vladimir Poutine, hein, je crois qu'il menace même de radier le statut d'État hein, de l'Ukraine, juste de l'englober dans la Russie, c'est ça ? C'est ça son projet ?
Oui, mais il a dit ça, mais il ne parviendra jamais à faire ça avec la résistance du peuple ukrainien.
Et comment on est
Il n'aura pas si de sûr, chance, tout
comment,
simplement.
Comment en es-tu si sûr, Valérie ?
Parce que même si l'armée russe arrive à vaincre, disons comme ça, mais je ne crois pas, mais arrive à vaincre l'armée ukrainienne, le peuple russe, les partisans, n'arrêteront jamais se battre. Ils ne pourront pas, les Russes, même s'ils prennent des villes, ils ne pourront pas les garder. Voilà.
Alors effectivement, Ceci m'amène à cette question suivante. Hein. Donc le 28 janvier, on pouvait lire dans le quotidien, le 24 heures, le quotidien vaudois, un article en pleine page de la rubrique Monde avec une citation de Tatiana Kastueva-Jean, qui est directrice du Centre Russie de l'Institut français des relations internationales, et qui affirmait que, je cite, « le scénario d'une invasion russe de l'Ukraine est irréaliste hein. ». Le 28 janvier, c'était il y a quelques semaines. Son analyse rejoint celle de nombreux autres experts en stratégie militaire, hein, qui arrivaient notamment à cette même conclusion au regard de la superficie et du nombre d'habitants et d'habitantes de l'Ukraine, ce qui nécessiterait bien plus que 20 000 soldats actuellement sur place pour réussir à contrôler le pays. Rappelons ici que l'Ukraine comprend 44 millions d'habitantes et d'habitants et un territoire d'une superficie de 600 000 km², pardon, ce qui équivaut en gros à 15 fois la taille de la Suisse. Malgré le fait que les États-Unis martelaient hein, à l'époque qu'une invasion de l'Ukraine par l'armée russe était imminente, le monde a été franchement surpris par cette attaque. Et le 24 février, donc, l'armée de Vladimir Poutine commence son invasion de l'Ukraine. Qu'est-ce qui t'a traversé l'esprit à ce moment-là, Valérie ?
Déjà, j'avais du mal à m'endormir. Une semaine qui précédait l'invasion, parce que j'entendais toujours tout le monde entier annoncer et avertir que l'attaque est imminente. Donc, quand je me réveillais chaque matin, quand je réalisais que je me réveillais, chaque matin, je prenais tout de suite le téléphone et je regardais si rien de grave s'est passé. Donc, le jour, c'était le 24 février, le matin, j'ai fait la même chose. J'ai pris mon téléphone et j'ai regardé. Et j'ai reçu le premier message de mes amis suisses, italiens, qui ont dit « Mais quelle erreur, on aurait jamais pu imaginer ça. » Et j'ai tout compris. Que la guerre à grande échelle entre la Russie et l'Ukraine s'est éclatée.
Et croyais-tu que Vladimir Poutine était capable de faire cela ?
Oui. En fait, je craignais ça encore en 2014. Je ne voulais pas y croire, mais je craignais ça encore en 2014. Et j'ai compris que ce n'était que la partie remise de la part de Poutine en 2014.
Tu viens de dire « je ne voulais pas y croire
». Oui.
Aurais-tu l'impression qu'il y a eu une espèce de déni ? Hein, par rapport à cette possibilité que la population ukrainienne ne s'était pas suffisamment préparée à cette éventualité, qu'elle ne voulait peut-être pas voir cette possibilité ?
Oui, c'était une sorte de déni. Oui.
Et que disaient tes proches qui étaient restés au pays ? Ils se disaient non, il ne va rien se passer. Enfin, qu'est-ce qu'ils disaient à cette époque ?
Ma maman, elle disait toujours que ce n'est pas possible. Voilà.
Ce n'est pas possible. Oui. C'était inimaginable.
Oui.
Et Valérie, comment est-ce que tu perçois la réaction de l'Occident et plus particulièrement de l'Europe face à cette crise aujourd'hui ?
Je félicite l'Europe, les États-Unis, le Canada, tout le monde occidentaux. Je félicite pour leur réaction, pour les sanctions et pour la solidarité. C'est une très bonne chose.
Les sanctions de l'Europe et des États-Unis notamment sont extrêmement lourdes hein, à l'encontre de la Russie. Hein. On parle de déconnexion du système SWIFT, hein, le système bancaire. Ouais. Il y a vraiment l'idée j'ai l'impression, d'asphyxier la Russie économiquement parlant. Ouais. Est-ce que tu penses que ces sanctions sont suffisantes pour arrêter Vladimir Poutine dans son projet ?
Les sanctions sont importantes, mais il faut toujours travailler dessus et regarder qu'est-ce qu'on peut encore faire comme les sanctions pour faire arrêter Poutine, voilà.
Et comment, maintenant parlons un peu de la Suisse, hein, comment est-ce que tu perçois la réaction du Conseil fédéral dans cette crise, hein, la réaction de la Suisse ? Parce qu'au début, elle était un peu frileuse, hein. Elle
ne voulait pas
adopter de sanctions, hein. Elle s'est un peu protégée sous le drapeau de la neutralité, et progressivement, elle a adopté les sanctions et s'est alignée un peu aux pays européens. Comment est-ce que tu apprécies cette réaction de la Suisse ?
J'apprécie la réaction de la Suisse, parce que nous savons que Suisse était toujours un pays neutre. Et, mais même ici, dans ce cas-là, la Suisse a adopté les sanctions malgré la neutralité. Et la Suisse a compris que personne ne peut rester neutre quand la Russie fait vraiment des crimes pareils.
Valérie, hein, on l'a évoqué durant l'entrée de cette interview, hein, je l'ai évoqué, tu es une personne exilée ukrainienne, hein, tu es en Suisse depuis 8 ans avec ta famille. Est-ce qu'on pourrait revenir un petit peu sur ton parcours d'exilé en Suisse? Est-ce que tu pourrais juste nous raconter un peu ce parcours en quelques mots? Qu'est-ce que
oui,
tu as vécu?
Je suis venu en Suisse avec ma femme, avec mes enfants en 2014. Voilà, on a déposé la demande d'asile qui a été rejetée. Donc, on a fait 2 démarches au niveau cantonal, 4 démarches au niveau fédéral. On a passé plusieurs années à l'aide d'urgence, donc sans papier. Voilà, donc, on a failli d'être renvoyé en Ukraine par un vol spécial. C'était vraiment dur.
Toi et ta famille ont failli être envoyés par vol spécial en Ukraine.
Ouais,
c'était en quelle année?
C'était il y a 3 ans.
Donc rappelons juste, qu'est-ce que c'est un vol spécial juste?
Un vol spécial, c'est quand les gens sont renvoyés, c'est un renvoi forcé. La police qui vient le matin amène les gens menottés, les met en avion. Un avion qui est prévu, c'est pas un avion de ligne, c'est un avion spécial prévu pour l'expulsion. Et la police accompagne toutes ces personnes expulsées jusqu'à pays de destination.
D'accord, donc tu étais assigné à résidence à un moment donné, tu étais prêt,
oui,
à partir.
Oui.
Et finalement, le destin, on a voulu autrement. Que s'est-il passé?
On a pris des démarches. Certaines démarches pour repousser le renvoi.
D'accord. Et finalement, il n'a jamais eu lieu.
Non.
Et tu as obtenu récemment, l'année passée, je crois.
Oui, l'année passée, après la 4e démarche auprès du SEM, on a obtenu l'admission provisoire.
Le permis F.
Oui.
Donc, ton parcours en Suisse, Valérie, on l'a compris, a été plus que difficile, car tu as failli être renvoyé en Ukraine avec ta famille l'année passée. Et aujourd'hui, les Ukrainiens sont en quelque sorte accueillis à bras ouverts en Suisse. Ainsi, la Commission fédérale des migrations recommande au Conseil fédéral d'accueillir les personnes à protéger en provenance d'Ukraine en leur accordant le statut de protection S, comme ce fut le cas en 1999 lors de la guerre en ex-Yougoslavie. Ce permis donc vise, donc le statut S vise à protéger des personnes aussi longtemps qu'elles sont exposées à un danger général grave, notamment pendant une guerre ou une guerre civile, ou lors de situations de violence généralisée. Que penses-tu de cet énorme élan de solidarité qui se manifeste aujourd'hui à l'égard de la population ukrainienne en Suisse et partout ailleurs dans le monde, Valérie?
Je félicite cette décision du Conseil fédéral, mais ce statut S, ce que j'ai entendu, elle n'est pas encore validée. Donc elle doit encore être validée peut-être ce vendredi. Et après, on verra si ce statut S est accordé aux réfugiés ukrainiens. Les réfugiés ukrainiens pourront éviter toute cette longue bureaucratie, la demande d'asile, toute cette bureaucratie qui est liée à une démarche pareille.
Et tu ressens cette solidarité? Que penses-tu de cette solidarité qui se manifeste à l'égard du peuple ukrainien? Qu'on l'explique-tu peut-être?
C'est incroyable, incroyable. J'admire ça. Mais je pense que les Suisses, eux aussi, ils ont compris que ce que fait la Russie, c'est choquant. C'est choquant. Et les Suisses, ils veulent aussi, j'ai vu que les Suisses veulent aussi, de leur côté, faire tout pour aider les Ukrainiens.
Est-ce que tu t'imagines, enfin, admettons que tu es renvoyé en Ukraine, hein, ce qui aurait vraiment pu être le cas, hein, Est-ce que tu t'es imaginé ce scénario de toi, ta famille en Ukraine sous les bombes? Est-ce que ça t'a traversé l'esprit?
Oui, moi je pensais, si j'étais en Ukraine maintenant, avec mes enfants, dans la ville qui est régulièrement bombardée, comment j'aurais pu réagir? C'est un choc, voilà. C'est un véritable choc.
On dit que la première victime des guerres, c'est la vérité. Aujourd'hui, des équipes de journalistes occidentaux sont visées par des tirs russes. Les journalistes occidentaux en Russie marchent sur des œufs pour faire leur travail, hein, à l'instar de ce tweet de journalistes français à Moscou en date du 6 mars. Place rouge fermée en prévision d'un événement qu'on ne peut pas qualifier en public, contre un événement qu'on ne peut pas qualifier et qui a lieu dans un pays étranger proche. Je cite. Hein. Comment fais-tu pour t'informer de la réalité sur place, vu que ce travail d'information est de plus en plus compliqué?
Moi, je m'informe déjà en regardant la télévision ukrainienne, la télévision française, suisse, italienne, polonaise. Donc, j'ai plusieurs sources de formation, notamment occidentaux.
Tu reçois de l'information, enfin, donc tu es polyglotte, hein, Valérie, tu parles de nombreuses langues, hein, je ne sais plus combien, mais tu parles beaucoup de langues différentes.
Oui.
Donc tu arrives à recevoir des informations autant venant des pays de l'Est, de l'Occident. Ces informations sont un peu les mêmes ou est-ce qu'elles sont
assez
différentes?
Les informations russes, maintenant, j'évite de regarder parce que ça me dégoûte. Regardez maintenant la propagande russe. Au moment quand ils bombardent les objets civils, les écoles, tout ce qui bouge, ils bombardent. Et regardez en même temps la propagande russe qu'ils disent là-bas, ça me dégoûte tellement que j'ai envie de vomir.
Un dégoût par rapport à cette information russe, mais tu as aussi de l'information de Pologne, d'autres pays hein, qui sont pas des... Enfin, parle d'autres langues que le français. Nous, on n'a que accès à l'information en français, en anglais, disons, globalement en suisse, ou peut-être en allemand. Comment est-ce que tu perçois ces différentes sources d'informations? Est-ce qu'elles disent la même chose ou...
Non, c'est l'impression que les Russes vivent dans un autre monde, sur une autre planète, et dans un monde parallèle, voilà, complètement.
Et comment vois-tu l'évolution de la situation aujourd'hui? Est-ce que c'est une guerre... éclair, est-ce que c'est une guerre durable?
Ça peut être une guerre durable. Avec le dictateur qui est au Kremlin, il ne veut pas relâcher. Je pense que ça va durer encore des mois, malheureusement. Mais je voudrais répéter que l'armée ukrainienne et le peuple ukrainien va vaincre. Il est en train de vaincre.
De vaincre l'armée russe.
Oui.
Et pour terminer, en tant que citoyenne et citoyen suisse, que peut-on faire concrètement dans cette situation, selon toi?
Je pense que les Suisses peuvent continuer à soutenir les Ukrainiens. Voilà, aider comme ils peuvent. Peut-être donner des dons, accueillir les Ukrainiens, soutenir comme ils peuvent.
Merci à Valérie Martseniouk d'avoir accepté de répondre à nos questions malgré la situation difficile que tu traverses aujourd'hui. Je le rappelle, tu es un ancien rédacteur de Voix d'Exil, d'origine ukrainienne, et tu es exilé en Suisse. Donc encore une fois, merci beaucoup.
Merci à vous.
Un sujet à retrouver sur Voix d'Exil, le média destiné à l'expression libre des personnes migrantes, sur notre site internet www.voixdexil.ch.